J'aimerais qu'encore qu'on prie pour ce moment. Seigneur, nous voulons encore nous remettre à ta grâce. Nous voulons nous ouvrir à ta voix, nous rendre disponibles à ce que ton esprit veut dire à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons ce matin encore être rafraîchis, visités, édifiés, corrigés, conduits près de toi, Seigneur. Aide-nous à consentir à ce que tu veux dans nos vies, à nous tourner vers toi, à nous ouvrir, et avant toute chose, à nous laisser aimer par toi, Seigneur. Tu vois combien nous avons du mal, toujours dans nos luttes pour te plaire, pour faire des choses pour toi. Alors que tu nous fasses la grâce de vivre ce moment dans le repos, dans la tranquillité devant toi, en recevant ce que tu as à nous communiquer, Seigneur. Pour ceux qui étaient là et qui se souviennent, ça fait beaucoup, hein. Dimanche dernier, j'avais commencé avec ce psaume de David, lorsque David dit « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je manierais loin dans un désert. » Et c'est vrai que, on est, je pense, naturellement tous comme ça, quand les choses sont un peu compliquées, difficiles ou simplement routinières et ennuyeuses, la chose qu'on aimerait le plus avoir, c'est des ailes. Et puis, pouvoir partir ailleurs, hein, différent, loin, fuir, ne plus faire face, ne plus être obligé de voir, de supporter. Et d'une certaine façon, le sujet de ce matin est lié avec ça aussi. Et c'est un sujet qui m'interpelle parce que c'est vraiment un sujet avec lequel j'ai des difficultés personnelles. C'est vraiment pas quelque chose qui m'est naturel, mais Dieu veut nous apprendre. Et j'aimerais qu'on voit ensemble un petit peu l'idée de la persévérance. Alors c'est un mot qui est assez présent dans la Bible. Et puis dans le Nouveau Testament, il faut savoir qu'il est traduit, il y a un mot en grec mais qui est traduit par plusieurs mots. Des fois c'est patience, des fois c'est endurance, des fois c'est persévérance. C'est le même mot. Et ce mot justement, c'est pour ça que c'est lié avec ce que je disais avant, littéralement veut dire rester dessous ou pomonner, hein. Apprendre à rester dessous dans la situation, dans ce qui se passe. Rester dessous, et rester dessous en le portant. En le supportant, mais pas dans un sens « je subis », mais comme Atlas qui portait le monde sur ses épaules. Hein. Apprendre à rester dessous ou dedans en portant cette chose-là. Et c'est vrai que, de toute façon, je pense que ça n'a jamais été quelque chose de très naturel au cœur de l'homme en général. Mais c'est en tout cas pas une valeur qui est développée dans notre éducation et dans nos cultures occidentales, hein, où le but justement de la vie, c'est d'éviter ce qui est désagréable, de fuir ce qui nous embête, et puis où on a quand même beaucoup de moyens pour le faire. On n'a pas encore des ailes qui nous ont poussé dans le dôme, enfin, avec les avions, les voitures, Internet, les casques sur les oreilles, la télévision, la radio, la littérature, le cinéma, etc., etc. On a quand même pas mal d'ailes qui nous permettent, si ce n'est de fuir, au moins de faire comme les autruches et de mettre la tête dans le sable pour ne plus voir, hein. Si le problème ne veut pas s'envoler, alors au moins si je le vois plus, je peux imaginer qu'il n'est plus là. La persévérance va à contre-courant de cette idée-là, puisqu'elle nous demande de rester conscient de ce qui se passe, de le regarder dans les yeux, et puis de dire « je vais rester là ». Et je vais rester là en portant cette chose. Alors, quand même pour préciser, il ne faut pas confondre persévérance et entêtement stupide. Hein. La persévérance, ce n'est pas le refus de se remettre en question. C'est pas le fait de pas se demander est-ce que je devrais continuer ou non, hein. Ça c'est autre chose. Pour pouvoir persévérer, justement, on va le voir, il faut avoir une conviction forte, être absolument convaincu au plus profond de nous-mêmes que je reste là parce que c'est là que je dois rester. Pas juste parce qu'à un moment j'ai pris une décision sans réfléchir, mais maintenant je veux pas revenir en arrière, je veux pas avoir l'air ridicule en changeant d'idée, ou je veux pas me remettre en question. C'est pas du tout ça. Mais une fois qu'on a écarté cette chose-là, on a besoin d'apprendre. Alors, je vais juste lire quelques versets. Il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ça, mais quelques-uns qui vont nous aider à réfléchir un petit peu ensemble. Et on va s'apercevoir que la persévérance est souvent liée avec le fait de porter du fruit ou de recevoir quelque chose de Dieu ou de pouvoir se saisir de quelque chose que Dieu veut nous donner. Et donc la persévérance est intimement liée au temps. Nous vivons dans le temps, nous naissons, nous grandissons, on vieillit, et puis un jour on meurt. Le temps qui passe, et Pascal vous dirait, le temps qui passe et qui veut que les enfants deviennent des grands et les grands deviennent des vieux. Donc la persévérance, elle est liée au temps. Il semblerait que lorsqu'on sera dans la présence de Dieu, on n'aura plus besoin de persévérance. Elle aura fini son travail, elle aura fait ce qu'elle avait à faire. Mais pour nous qui vivons dans le temps, la persévérance est liée avec la récolte, la moisson, l'obtention d'eux. Dans la vie matérielle, on sait que les agriculteurs, les paysans ont besoin de persévérance, de patience. Pourquoi ? Ben, vous mettez une graine en terre à une saison, vous recouvrez, et puis il faut attendre. Il n'y a pas de raccourci. Enfin, ouais, on peut mettre une serre, on peut chauffer un peu mieux, on peut. Mais il y a quand même des délais qu'on ne peut pas comprimer au bout d'un moment. Et puis il faut, dans la confiance, attendre que le travail se fasse dans l'invisible. Parce qu'on sait tous que si tous les jours on sort notre graine pour voir si elle a poussé, c'est sûr qu'elle ne va pas pousser. Mais on pourrait tenter de faire ça. Dans mes débuts comme agriculteur avec mon père, je sais que souvent j'étais tellement impatient quand j'avais semé des choses que, pas toute la rangée, mais un peu au début, j'allais quand même gratter pour. Est-ce que ça travaille ? Et bien sûr, les premiers plants où je grattais toujours, ils ne poussaient pas, les autres poussaient après. Parce que, alors j'ai arrêté de faire ça. C'est pareil dans nos vies. Dans Luc 8,15, il est dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, donc c'est la parabole que Jésus raconte, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur bien disposé, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Un cœur bien disposé, on entend, on reçoit, mais entre ça et la récolte, il va y avoir cette patience de rester dedans en portant cette chose, dans le temps. J'ai pris l'exemple de l'agriculture, mais on pourrait prendre l'exemple de l'être humain et de la maternité. Entre la conception et l'accouchement, c'est le temps de la persévérance. Alors vous direz, là, on n'a pas le choix, c'est vrai. Je me rappelle lorsque j'ai accompagné Anne-Marie à la maternité pour la première naissance. Il dit, non, je veux plus, on arrête. Non, pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. Mais il y a tout ce temps de la patience, de la persévérance où il faut que ce qui a été semé grandisse, que le travail se passe dans le mystère du temps qui fait que on ne voit pas d'un jour à l'autre, on ne voit pas d'une semaine à l'autre, mais au bout d'un certain temps, on se dit, tiens, ça a changé. Il y a quelque chose qui se passe. Et pendant ce temps-là où on voit rien, ou pas grand-chose, où il faut continuer d'avancer sans trop voir, il y a cette chose qu'on appelle la patience, la persévérance, qui, encore une fois, est quelque chose de positif et d'actif. J'ai dit que ce n'était pas de l'entêtement stupide où on ne veut pas réfléchir et pas se remettre en question. C'est pas non plus une acceptation passive de tout ce qui arrive. Inch'Allah, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, on reste là, on attend, et puis j'y peux rien. Non. Je peux quelque chose. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper d'endroit. Notre difficulté dans la vie chrétienne, comme dans la vie en général, c'est souvent pas qu'on ne met pas d'énergie, c'est qu'on ne la met pas au bon endroit. On se bat, mais pas là où il faut. On combat, mais pas les bons ennemis. On lutte, mais pas avec les bonnes choses. Et donc, si on n'a pas une bonne compréhension des fonctionnements spirituels, alors on va se battre, s'épuiser, avoir l'impression qu'on a fait beaucoup, rien récolter et se décourager en disant « ça marche pas ce truc-là ». Et pourtant, j'ai fait tout ce que... Non, j'ai mis beaucoup d'énergie, je me suis battu, j'ai travaillé, j'ai œuvré, mais si j'ai pas fait ce qu'il fallait, au bon moment, hein, je ne vais pas récolter. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage à avoir une intelligence spirituelle. Paul disait, je prie que les yeux de votre cœur s'illuminent, que votre compréhension grandisse, pour toujours mieux appréhender les fonctionnements de notre vie spirituelle dans une compréhension globale. Hein, comment ça fonctionne? Et puis c'est aussi rendu difficile par le fait que, là aussi, notre époque, notre façon de vivre, fait de nous des spécialistes, enfin, ou voudrait faire des spécialistes dans un tout petit domaine très pointu où vraiment on est les meilleurs là-dedans, mais on ne connaît rien à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Il y a 100 ou 200 ans, quelqu'un d'érudit connaissait un petit peu sur presque tout. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un haut niveau, il connaît presque tout sur presque rien. Sur un tout petit domaine où il est très 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 pointu, mais il ne sait pas ce qu'il y a avant, il ne sait pas ce qu'il y a après. Parce que les connaissances sont tellement agrandies, on ne peut pas être un spécialiste en tout. Mais dans la vie chrétienne, bien sûr, on ne peut pas être des spécialistes dans tous les domaines. Mais si on n'a pas une compréhension générale de comment les choses fonctionnent les unes par rapport aux autres, alors on va s'épuiser dans des faux combats, se perdre à droite, à gauche, et puis être découragé parce que la récolte est maigre, hein, la moisson vient, et puis il n'y a rien ou il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça que je prends souvent cette expression, je dis, on a besoin d'étudier la vie spirituelle dans son milieu naturel, de la comprendre dans son ensemble, comment elle est vivante, organiquement parlant, et comment chaque sujet est lié à l'autre. Donc la persévérance, c'est un des éléments qui fait partie du processus, du travail de Dieu dans nos vies. Il faut aussi se rappeler, c'est une chose que j'ai abordée un petit peu dimanche dernier, que notre conception de la vie est souvent fausse. Hein, par exemple, et je dirais peut-être surtout quand on est jeune, mais on peut s'imaginer que la vie est là pour que je sois heureux tout le temps, que tout aille bien. Ben, on aimerait, hein, j'ai rien contre, mais c'est pas la réalité. Et c'est même pas spécialement le but de Dieu que tout aille toujours comme je voudrais dans ma vie. Dieu a choisi de faire de nous ses enfants, de nous racheter, de mettre en nous sa vie, et puis de nous former, de nous préparer, de nous équiper. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, je le mentionnais encore dimanche dernier, nous sommes nés au milieu d'un champ de guerre. Et moi, j'ai jamais vécu la guerre, peut-être certains ici l'ont vécu à d'autres moments ou dans d'autres pays. On ne choisit pas, hein, en général. On est à cet endroit-là, et puis vous vous levez le matin et le champ de patates n'est plus un champ de patates parce qu'il y a des bombes qui sont tombées dedans, et ce qui était votre grange n'est plus là parce que quelque chose qui est tombé dessus, et puis votre ami n'est plus là parce qu'il a été fauché. C'est la réalité. Et personne n'aime ça, personne n'a envie. Spirituellement, nous sommes venus au monde dans un monde en conflit, et matériellement aussi d'une certaine façon. Et puis, ça ne me plaît pas, je ne comprends pas, j'ai beaucoup de questions sans réponse, mais c'est un fait qu'on doit quand même à un moment intégrer dans nos façons de penser. Oui, la vie n'est pas juste, ouais, c'est cool, on va s'amuser jusqu'à la fin de nos jours et faire que ce qui est fun tout le temps. J'aimerais, hein, sincèrement, mais je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Donc si je reste bloqué là-dessus et puis il n'y a que ça qui compte, je vais être frustré toute ma vie parce que ça ne va jamais arriver, hein. Et encore une fois, je suis le premier à dire, il faut déguster les bonnes choses, il faut apprécier ce que Dieu nous donne, il n'y a pas du tout l'idée de chercher ce qui est difficile ou compliqué ou qui nous rend malheureux, hein. Ça vient tout seul. Mais ça fait partie de nos vies. Et dans tout ce processus-là, Dieu nous forme, nous prépare, parce que nous avons une vie courte sur Terre, même si des fois on a l'impression que ça peut être long, mais c'est court, hein, c'est... La Bible dit que c'est comme une vapeur qui s'élève, c'est comme une fleur qui pousse et qui se fane. Et puis, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que c'est vraiment court, ça va vraiment vite. Et justement, parmi les choses extraordinaires, c'est que nous savons, et c'est pas juste un réconfort pour faire passer la pilule, c'est une réalité. Nous avons une vie éternelle qui nous attend, d'une qualité qui est extraordinaire. Et nous sommes ici en formation, en préparation, en entraînement, à l'école, appelez-le comme vous voulez. On est en apprentissage, on se forme. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas apprendre dans l'éternité. La persévérance en fait partie. Parce que il n'y aura pas les mêmes difficultés, il n'y aura pas l'incompréhension comme elle est maintenant, même si, je ne sais pas si on saura tout, mais ça ne sera plus possible. Et surtout, la persévérance, c'est pas une vertu en elle-même, parce qu'il faut être persévérant, mais elle permet à Dieu de faire son travail dans nos vies. C'est un peu comme quand on parle d'un sportif et puis qu'on lui dit, même si son sport a rien à voir avec la course à pied, il faut courir tous les jours. Oui, mais pourquoi moi je courais tous les jours? Je fais pas de la course à pied comme sport. Oui, mais c'est cette course régulière qui fait que ton cœur va d'abord s'agrandir et puis après se fortifier. Et puis un sportif de haut niveau fait de la musculation et il muscle tous les membres de son corps. Pourquoi quelqu'un qui fait de la course à pied muscle ses bras? Bah, il court pas avec les bras, il court qu'avec les jambes. Mais non, mais il faut que tout le corps soit équilibré, etc., etc. Et la persévérance, c'est pareil. C'est pas une vertu en soi. C'est pas quelque chose où c'est pour ça que souvent je disais, on se trompe de combat. On s'imagine que parce que j'ai été gentil et que j'ai entendu sans rouspéter, Dieu va me donner ma récompense. Hein, un peu comme les enfants quand ils veulent quelque chose, ils vont dire bon, si tu restes tranquille 10 minutes, tu auras ton dessin animé. Mais fiche-moi la paix 10 minutes. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas tellement occupé qu'il nous dit, écoute, j'aimerais bien te répondre de suite, mais comme je suis occupé avec les autres et que je n'ai pas le temps, patiente 10 minutes, et si tu es sage en patientant, ben après, je te donnerai ta récompense. Ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi Dieu laisse passer du temps? Parce qu'il faut qu'un travail se fasse en nous, et que ce travail peut se faire que dans le temps. Si le sportif disait, bon, puisque je dois courir 20 minutes, personne ne me voit, je cours 3 minutes, je me cache derrière un arbre, et au bout de 20 minutes, je sors et je fais les derniers 500 mètres. Hein, et c'est super, j'ai fait mes 20 minutes, l'entraîneur est content. Vous imaginez qu'il va aller loin, un sportif pareil. Hein. Non, parce que c'est le temps pendant lequel ces muscles se contractent, se décontractent et font l'effort, qui vont avoir pour résultat ben, un changement de sa masse moléculaire, un changement de signe, l'endurance, la résistance, le cœur, tout le travail qui se fait. Il n'y a pas de raccourci. C'est pour ça que j'ai du mal avec le sport. Il n'y a pas de raccourci. Un petit peu de temps en temps, ça ne sert à rien. Il faut, avec persévérance, jour après jour, commencer, aller jusqu'au bout, continuer. Mais ce n'est pas parce que vous êtes gentil que les muscles viennent. Ce n'est pas parce que vous avez fait ce que l'entraîneur a dit que vous allez être meilleur. C'est parce que ça a produit un travail dans nos vies. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Quand Dieu dit, écoutez, allez dans cette direction et puis je vais vous donner telle chose. Et puis, oh super Seigneur, merci, wow, Dieu m'a parlé. Je prends la direction, je commence à marcher, et puis je marche, et puis je marche, et puis je marche, et puis je marche. Et puis j'ai envie de m'arrêter parce que, attends, tu m'avais dit de marcher dans cette direction, j'ai commencé. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 1 mois, ça fait 3 mois. Il ne se passe rien. Donc, puisque ça ne sert à rien, je m'arrête. Et puis si Dieu veut le faire, il le fera. Après tout, il est Dieu, il est grand, il est malin. Non mais, si Dieu ne m'a pas dit d'arrêter, alors il faut continuer. Et bien sûr, j'ai le droit de demander jour après jour, Seigneur, tu es sûr qu'il faut encore continuer ? Seigneur, est-ce que tu n'as pas autre... Non, tu n'aurais pas une autre direction à me donner? Est-ce que tu ne veux pas... Parce qu'on doit être intelligent, on doit réfléchir. Mais si je n'arrive pas à cette réponse, bien sûr, je peux me tromper, mais être convaincu que ben, c'est le temps de changer de direction. Alors, je vais continuer dans la direction. La persévérance, on pourrait dire aussi, c'est cette volonté de continuer entre deux fois où Dieu nous parle. S'il nous parle tous les jours, c'est super, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est tellement clair ce que Dieu veut de nous, Dieu nous dit ou Dieu nous donne comme direction, allez dans cette direction, oh, on est super, on est enthousiaste. Et puis, ben, au bout de 2-3 jours où on marche dans cette direction, ou 2-3 mois des fois, ou 2-3 ans, hein, et puis qu'il ne se passe pas grand-chose et qu'on n'entend pas grand-chose, on se dit, mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'était bien ça qu'il voulait? Et ça, ce n'est pas grave, hein. Se poser des questions, ce n'est jamais un problème. Mais je dois continuer. Hein. Si vous êtes perdu dans un désert ou j'imagine dans une forêt ou dans un endroit que vous ne connaissez pas, si tous les 100 mètres vous changez de direction, vous ne sortirez jamais. Hein. La seule chose à faire, surtout si vous avez une boussole, c'est prendre une direction, peu importe laquelle, et la garder toujours, 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 jusqu'à ce que vous trouviez un repère, un autre signe. Parce que si chaque fois vous faites un jour de marche dans un sens, un dans l'autre, ou une heure dans un sens, ben à la fin, vous aurez beaucoup tourné en rond, mais vous ne savez pas. Si vous allez toujours tout droit jusqu'à ce que vous sachiez quelque chose, peut-être vous allez vous apercevoir que je voulais aller à Dunkerque et je suis à Marseille. Mais je sais où je suis. Hein ? Je peux repartir. Alors que si je change sans arrêt de direction, j'arrive nulle part. Alors c'est vrai qu'on dit aussi celui qui ne vise rien ne rate pas la cible. C'est sûr, hein ? On est moins déçu. Mais aussi, on n'arrive nulle part. Or, la persévérance nous encourage à... Ben, Dieu m'a dit, cette direction m'a été donnée, et puis je vais la prendre et je vais continuer. Et bien sûr, encore une fois, à chaque moment, chaque jour, chaque instant, je peux dire à Dieu, hey, si c'est pas la bonne, si ça a changé, si le travail est terminé, s'il faut passer à autre chose, je suis ouvert, je veux le savoir, montre-moi-le, dis-moi-le. Et tant que je ne sais pas, je reste avec ce que tu m'as dit et je continue. Et on va s'apercevoir que ça va produire des choses dans nos vies. Parce qu'en réalité, c'est pas tellement ce que nous faisons qui est important, c'est pas trop où nous allons qui est important, c'est que Dieu puisse faire son travail en nous. C'est ça qui compte. Nous, on est toujours en train d'essayer d'évaluer nos vies sur les résultats, et puis ce que Dieu, ce qui intéresse Dieu, intéresse entre guillemets, c'est plutôt ce que ça a produit en nous. Alors, selon son planning, vous savez, des fois, pour faire courir quelqu'un, vous pouvez fixer une ligne droite sur 10 km, ou vous pouvez lui faire faire 10 fois le tour du stade qui fait 1 km. Ben, y en a un qui est plus intéressant que l'autre, peut-être. Mais en réalité, pour votre corps, ça a le même résultat. Hein. Courir 10 km en ligne droite ou faire 10 fois le tour d'un stade d'un kilomètre, c'est exactement pareil. Mais pour votre ressenti, c'est pas pareil. Dans un cas, vous avez l'impression d'être arrivé quelque part. Dans l'autre, vous dites, je suis revenu à mon point de départ et j'ai rien fait. Mais le travail qui s'est opéré en vous est le même. Et Dieu nous éduque, Dieu nous entraîne. Et puis, bien sûr, il se sert quand même de nous pour faire certaines choses qu'il veut faire, hein, parce que c'est toujours interactif les uns avec les autres. Mais on a besoin d'avancer. Alors, je prends un autre passage, Romains 5, 3, qui dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, des épreuves, des difficultés, sachant que ces épreuves produisent la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » La persévérance, donc encore une fois, c'est un des ingrédients dans le processus du travail de Dieu dans nos vies. C'est pas en soi quelque chose de bien. Dieu est pas content parce que vous avez souffert en silence pendant 10 jours sans rien dire. Non, ça lui fait pas plaisir. Mais c'est nécessaire dans le processus. Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, sur la piste qui nous est tracée. Et ce verset nous amène à deux éléments intéressants. Hein. Il est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement pour courir avec persévérance dans le chemin que Dieu nous a tracé. Ce qui fait que souvent je m'arrête dans la persévérance, ce qui fait que j'arrête de rester dedans en portant les choses, ben, ici il y a deux choses qui sont listées, les fardeaux et le péché. Et le mot utilisé ici pour fardeau, est un mot assez particulier qui est utilisé qu'une fois dans le Nouveau Testament et qui nous parle de ce qui est proéminent, ce qui passe devant tout et donc qui nous charge, qui est lourd. Hein. C'était un mot aussi qui pouvait parler du poids en trop que les athlètes pouvaient avoir. Hein. C'était pas tellement un fardeau dans le sens de porter des choses. Mais c'était ce qui prend tellement de place dans nos vies que ça nous alourdit. Ce qui peut nous arrêter dans la course que Dieu a tracée devant nous, ben c'est justement de porter des choses qui n'étaient pas prévues que nous portions et qui font que ça devient trop lourd. Oui, Dieu a prévu que nous courions pour nous muscler, pour nous équiper, pour que notre cœur s'agrandisse, pour qu'il fonctionne mieux. Mais même si je suis dans la bonne direction, j'ai bien entendu la voix de Dieu, mais tout le long de ma course, je ramasse des choses. et puis je remplis mon sac à dos. Au bout d'un moment, les articulations n'y arrivent plus, le dos a mal, les genoux en peuvent plus, et puis je dis, c'est pas possible de continuer, Dieu peut pas me demander une souffrance pareille. Non mais Dieu t'a demandé de courir, mais pas de courir en portant tout ce que tu as trouvé au bord de la route. Et donc on doit apprendre, entre guillemets, à voyager léger. Alors avec quoi on se charge ? Ben ça, il y a tellement de choses que je pourrais pas les lister. Mais ça peut être des choses qui ont l'air bonnes. Je me charge des soucis des autres, puis peut-être il fallait pas. Je me charge avec une culpabilité, mais c'est pas à moi de la porter. Je me charge avec, ça peut être de la rancune, ça peut être de l'amertume, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein. Souvent avec mes fausses conceptions de Dieu. Hein. Ah, il faut que je coure jusqu'au bout pour que Dieu m'aime. Vous savez ce que ça pèse, ça, comme poids ? C'est énorme, ça vous coupe les jambes, ça vous coupe le souffle, ça détruit la colonne vertébrale, ça vous sèche. Si j'arrive pas à courir jusqu'au bout, Dieu m'aimera pas. C'est un fardeau énorme. Mais Dieu nous demande pas de courir pour lui prouver qu'on l'aime. Il nous demande pas de courir pour qu'il soit content. Ça, c'est deux sujets qui sont complètement déconnectés. Si je dis à Dieu, tu sais quoi, la course que tu as tracée pour moi, j'en ai rien à faire, je m'assois par terre et je vais plus bouger de là jusqu'au jour de ma mort ou de ton retour. Dieu vous aimera exactement pareil. Il ne peut pas vous aimer moins. Parce qu'il vous aime à cause de lui, pas à cause de vous. Hein. Si le fait de courir bien, de courir vite, de courir mieux, pouvait faire que Dieu m'aime plus, alors on est dans un système religieux où il n'y a que les meilleurs qui vont gagner. Et puis, ben, j'en serai pas. Hein. Et puis, c'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Donc, le fait que Dieu nous aime, que Dieu nous accepte, qu'il nous ait pardonné, qu'il ait tout fait pour nous, qu'il sera avec nous tous les jours, c'est pas à gagner par la persévérance, ça. Alors, vous savez, il y a ce verset dans Luc qui dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Qu'est-ce qu'il a été tordu et déformé, ce verset ? C'est pas notre salut qu'on va gagner par la persévérance. Ce verset veut simplement dire que lorsque je persévère dans ce que Dieu m'a montré, m'a donné, je vais sauver mon âme de ne pas devenir ce qu'elle devait devenir. Parce qu'effectivement, il y a une perte si je m'arrête de courir. Mais la perte, c'est pas que Dieu m'aime moins, c'est que je vais pas devenir ce que je devrais être. Alors oui, effectivement, il y a une perte. Puisque nous sommes à l'école, hein, et on va tous arriver au bout. Maintenant, si je dis, moi, l'école, ça m'embête, je vais pas au cours. Pas de problème. Notre Père Céleste nous aime autant. Ben, quand j'aurai fini l'école et si j'étais jamais au cours, ben, j'aurais rien appris. Ça change rien au fait que Dieu m'aime. Ça veut dire que je vais rentrer dans la vie en ne sachant pas grand-chose, en n'ayant pas développé mes capacités. C'est triste pour moi. Ça, c'est mon libre arbitre, c'est ma volonté. Hein. Imaginez, vous avez des super talents pour devenir un grand peintre, pour être un grand musicien, pour être un grand architecte, pour être quelqu'un qui... n'importe quoi. Et puis vous dites, je veux pas faire la formation. Ben, tu la fais pas. Ben, tu vas pas apprendre. Ben, tu seras jamais un grand peintre. Mais est-ce que je t'aime moins pour ça ? Mais ça n'a rien à voir. Hein. Tous ceux qui ont des enfants, on aimerait tous que nos enfants atteignent leur plein potentiel. Quel il est, on ne le sait pas, mais on veut leur donner les moyens. Mais que vos enfants réussissent au pas dans leurs études, qu'ils deviennent, même si vous savez qu'ils ont des capacités, hein, et puis ils les utilisent pas, c'est frustrant, hein, ça nous fait mal. Mais ils le font pas. Est-ce que vous dites, ben alors je l'aime plus? Ben j'espère que non. Mais en tout cas, Dieu le fait pas. Ça a rien à voir, l'amour de Dieu, avec nos personnes. Par contre, pour celui qui aurait pu développer des tas de choses qu'il avait, que Dieu lui avait donné, et parce qu'il a pas de persévérance, il les développe pas, c'est triste pour lui, uniquement. Mais ça n'a rien à voir. Donc, ce fardeau qui nous enveloppe si facilement, souvent, il est lié à ça, à cette idée que je cours pour que Dieu soit content. Hein. Je cours pour que les autres disent, oh, qu'est-ce qu'il court bien. Hein. Je cours pour être le premier. Ça, c'est pas possible, il y en a trop qui courent déjà devant depuis longtemps. Hein. Je cours pour... Non. Je cours parce que c'est ce que j'ai à faire, hein. Parce que je crois que c'est ce que Dieu m'a confié, et j'irai jusqu'au bout de ma course. Peu importe si l'autre court plus vite, moins vite, plus loin, plus à droite, plus à l'est, plus à l'ouest. C'était la question de Pierre, hein, lorsqu'il s'est retourné, plutôt de Jean, lorsqu'il s'est retourné avec Jésus dans Jean 21 sur la plage. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver en montrant Pierre ? Ça t'occupe pas. toi suis-moi, toi cours ta course. Et puis il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, il est très vaste, mais je m'aperçois que ça fait trop pour une fois. Mais je veux juste conclure avec une chose importante, c'est que la persévérance ne peut pas être non plus une bonne décision de début d'année. Vous savez, cette année, je vais persévérer. Ou genre, dans cette situation-là, je vais tenir jusqu'au bout. Personne ne peut dire ça. La persévérance, c'est la répétition d'un consentement à la volonté de Dieu moment après moment. Je ne peux pas dire si demain je courrai encore. J'aimerais, j'en sais rien. Mais je peux décider maintenant de dire à Dieu pour le moment présent, Seigneur, aide-moi à faire encore un pas. Si je dois continuer dans cette direction pendant 10 ans, je ne tiendrai pas. Non, ça, ce n'est pas la question. Puisque tu ne m'as pas dit d'arrêter, aide-moi à faire encore un pas. Juste un pas, Seigneur. Et puis je le fais. Mais puisque je ne suis pas mort en faisant ce pas, Seigneur, donne-moi la force de faire encore un pas. Et puis je le fais. Ben, je suis toujours vivant. Alors Seigneur, donne-moi la force de faire encore un pas. Et puis je le fais. 10 ans plus tard, vous aurez fait du chemin comme ça. Hein? Mais vous ne saviez pas. Ce n'est pas la question. Hein? Simplement, tant que Dieu ne vous a pas dit stop ou change de direction, moment après moment, on continue. Hein? Je suis parti en Roumanie pour 1 an, on y est resté 15 ans. Puis quand je pensais y rester 10 ans de plus, on a dû partir. C'est jamais, hein. Je suis venu en Suisse, je ne sais pas pour combien de temps, quand on me demande ça va durer combien de temps, j'en sais rien. Pour le moment, je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi, alors je dis chaque jour, plus souvent que chaque jour, Seigneur, aide-moi à faire encore un pas. Ben, je le fais. Oui, mais jusqu'à... Non, je ne peux pas dire, je vais tenir 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 15 ans. Encore un pas, encore un. Et puis, Dieu est là, et son amour nous entoure, et sa vie nous fortifie. C'est lui qui nous donne l'énergie pour courir. Et donc... Mon effort, entre guillemets, s'il y en a un, c'est pas dans « je vais tenir, je vais y arriver, il faut que je le fasse !» Non. Mon énergie, ma volonté, mon effort, c'est moment après moment de dire à Dieu « s'il te plaît, aide-moi à en faire encore un. Aide-moi à en faire encore un. Juste encore un petit pas de fourmi, mais encore un, Seigneur. Je veux pas m'arrêter. Encore un. Oui, je suis à genoux, mais je peux encore ramper un peu. Aide-moi, encore un petit peu. Hein. Et puis on se relève, et puis on continue. Jusqu'à quand? Ben, je sais pas. Mais on continue. Et à un moment, on va se dire, tiens, la récolte est là. Tiens, la ligne d'arrivée est là, peut-être. Tiens, je suis arrivé à la maison, je m'en étais pas aperçu. C'est pas grave. Mais juste, moment après moment. Et puis, rejetons ben, le péché, bien sûr. Et ces fardeaux qui viennent là, il va falloir que tu continues comme ça jusqu'au bout de ta vie. Je ne pourrai jamais, alors j'arrête de suite. Non, 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 juste aujourd'hui, encore un peu. Le lendemain aura soin de lui-même, hein, mais je suis avec vous chaque jour. Juste chaque jour, chaque instant, pas pour les 10 prochaines années, chaque jour au présent. Et puis je crois qu'on en a tous besoin dans nos situations, dans tout ce qui est autour de nous, notre vie, nos enfants, nos familles, le travail, la société, notre absence de travail, tout ce qui est là, comment je vais tenir comme ça, je ne cherche pas. C'est ce que Dieu veut, fais un pas. Seigneur, aide-moi pour celui d'après. Et on va avancer ensemble comme ça jusqu'au bout, c'est sûr. Alors Seigneur, merci, parce que tu veux, par la persévérance, travailler dans nos vies. Tu veux nous former, nous éduquer, nous muscler, nous équiper pour devenir ce que tu as prévu que nous serions. Merci pour tout ce que tu as déposé en nous. Merci parce que tu connais ce chemin, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté lorsque tu es venu sur terre. Et tu veux nous apprendre à dépendre de toi moment après moment. Et pour aujourd'hui, pour la situation dans laquelle nous sommes chacun d'entre nous, nous te demandons la force, la grâce, l'énergie de faire le pas suivant. Juste celui-là. Mais de le faire avec toi. Dans cette conscience de ta présence, dans cette attente vis-à-vis de toi, dans cette dépendance à ta volonté, énergisée par ton amour, vivifiée par ton esprit, par ta vie, par tout ce que tu es, et qui nous permet de nous tenir debout, Seigneur. Alors sois glorifié pour cela. Amen.